Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France, émission qui même pendant la trêve a pas mal de choses à raconter sur le PSG sur et en dehors du terrain. Le sommaire dans quelques instants, mais on accueille tout de suite un petit nouveau dans Cop Paris, son visage vous dit certainement quelque chose, Béric Pierre-Louis, journaliste. Salut Béric.
Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de.
Bienvenue à toi dans Cop Paris, entouré par deux tauliers de l'émission. Jonathan Ferdinand, créateur de contenu. Salut Joe.
Salut.
Et Franck Dessous, supporter du PSG. Tout va bien,
salut.
Franck.
Ça va et toi?
Félicitations à toi.
Merci, merci, merci.
Qui est arrivé il y a quelques jours.
Exactement.
Ça dort un petit peu?
Ça dort un petit peu.
Bon. Toi non.
Le sommaire avec un focus tout d'abord sur Randal Kolo Muani, l'homme qui termine meilleur buteur des Bleus en 2024, mais qui est dans une impasse totale au PSG. Kolo Muani a-t-il encore un avenir au PSG, c'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. La politique, elle a-t-elle sa place au stade? Le CUP est-il victime d'un traitement de défaveur? Ce sera notre grand débat du soir dans la deuxième partie au regard des différents événements des semaines écoulées. Et puis, l'instant nostalgie en fin d'émission. Retour sur 3 ans de Laurent Blanc au PSG. Le style, les joueurs, les résultats, mais aussi les échecs. Était-ce le meilleur PSG de l'ère QSI? Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs omnisports. Cop Paris, c'est parti. Bon, c'est un paradoxe à lui tout seul, hein. Relégué sur un banc dont il ne sort quasiment plus jamais au PSG. Randal Kolo Muani a donc été l'attaquant le plus utilisé pendant cette trêve chez les Bleus. On va voir quelques images. 2 fois 90 minutes quand même, jeudi face à Israël et hier face à l'Italie. Alors il n'a pas marqué cette fois-ci, en manque de réussite contre Israël. Pas de tir hier soir contre l'Italie. En attendant, il termine tout de même meilleur buteur, notre ami Kolo Muani des Bleus en 2024. 6 réalisations. Est-ce que déjà, messieurs, on va parler du jeu presque au-delà des buts. Vous avez l'impression de voir un Kolo Muani différent en équipe de France de celui du Paris Saint-Germain?
Bah, rien que dans les images qu'on vient de passer, le langage corporel est déjà différent de celui du PSG. Il tente, il percute, on ne voit pas faire ça au Paris Saint-Germain, et donc rien que déjà mentalement on voit que ce n'est pas le même joueur. Alors merci à l'équipe de France de nous entretenir ce joueur-là, parce que ce n'est pas le même au Paris Saint-Germain.
Franck,
Ouais, un peu dans la continuité des propos de Jonathan. Le paradoxe, c'est que en fait, par rapport entre Deschamps et Enrique, il a la confiance de Didier Deschamps. Il joue peut-être à son poste où il est le meilleur. Ouais. En l'occurrence, ailier droit, et c'est pas forcément un attaquant. Donc, j'ose espérer qu'il aura de la continuité sur les derniers matchs qui restent avec le Paris Saint-Germain. Sinon, ça serait potentiellement un échec.
Béric, c'est la confiance, comme le disait Franck, que lui accorde Didier Deschamps. C'est peut-être aussi un petit peu le cadre, le style de jeu de cette équipe de France, différent de...
Bien sûr, on le sent en confiance et libéré en équipe de France, même si sur le dernier rassemblement, ça n'a pas été le cas.
Ouais, moins bien.
Ouais, 2 matchs très très moyens, voire même médiocres. Mais oui, quand on est en confiance, on peut se libérer. Il est entouré de joueurs plutôt bons. Au Paris Saint-Germain aussi, mais en équipe de France, ils se connaissent peut-être un petit peu mieux. Donc oui, on le sent libéré, on le sent meilleur dans sa tête avec l'équipe de France.
Kolo Muani, je le disais, qui termine donc meilleur buteur de l'équipe de France en 2024. Et c'est là que le contraste est quand même saisissant. Sur l'année civile 2024, il a autant marqué avec l'équipe de France qu'avec le PSG, sauf qu'il a joué 20 matchs de plus avec le PSG. Ce contraste-là, c'est quand même la preuve que Kolo Muani a un niveau international. Peut-être pas celui du Paris Saint-Germain, mais il y a un vrai niveau chez Randal Kolo Muani.
Pour moi, c'est une énigme, parce que j'ai l'impression... Après, c'est peut-être le Paris Saint-Germain, mais quand je le vois toucher le ballon au PSG, c'est pas le même joueur. J'ai l'impression que le maillot, il pèse trop lourd. Alors, le maillot de l'équipe de France, il est lourd aussi, mais c'est vraiment pas le même joueur. Ouais, donc, comment expliquer, peut-être que c'est le côté paternaliste de Deschamps qui lui va bien, mais c'est compliqué que le Paris Saint-Germain... Moi, j'ai pas d'explication.
Ouais, personne n'a d'explication, en fait, en soi.
Quand on est un joueur natif d'Île-de-France, généralement, quand on joue au Paris Saint-Germain, il y a une pression supplémentaire. Ouais. Peut-être qu'il a du mal à se débarrasser de cette pression-là. Peut-être que c'est un pur mental, en fait.
Un peu d'accord avec les propos de Béric. Ouais. Ouais. Même à défaut du cadre Luis Enrique, je pense que quand on joue au Paris Saint-Germain, il y a une pression. Et lui, il l'a. Et en plus de ça, c'est qu'il n'a pas la confiance d'Enrique. Ouais. Il n'est pas Luis Enrique compatible. Donc, je pense que pour lui, ça pose un problème.
On va l'écouter, Luis Enrique, sur la question, justement, a-t-il encore un avenir au Paris Saint-Germain? On l'écoute et on en reparle juste après.
C'est un message que je répète constamment. Je me fie énormément à ce que je vois pendant les matchs, mais aussi lors des entraînements. Un joueur qui est en manque de temps de jeu peut tout à fait renverser les choses avec un entraîneur comme moi. Mais je n'ai aucun problème à donner ou enlever du temps de jeu en fonction de ce que je considère le plus bénéfique pour l'équipe.
Bon, en creux, il y a quand même un problème de rendement que Luis Enrique soulève. En match, ça on le voit, mais aussi aux entraînements. C'est ce que dit Luis Enrique. Après, est-ce que c'est discours de circonstance?
Nous, on ne peut pas le voir, donc on ne peut pas juger. Mais après, s'il faut aussi quand même tirer un petit peu sur Luis Enrique, parce que sinon c'est pas drôle. J'aimerais bien le voir parfois dans un autre contexte, Randal Kolo Muani. Peut-être à la place de Dembélé, quand il rate toutes ses opportunités. Mmh. Et on en parlait en off, pour moi, Dembélé, quand il n'est pas dedans, on sait très bien qu'il n'en mettra pas
une
au fond.
C'est une option différente, mais c'est une autre option.
Pourquoi pas tenter, puisque à Francfort, c'était intéressant. Mmh. Pourquoi pas essayer? J'aimerais bien voir ça dans les prochaines semaines.
Ouais, mais le problème de Dembélé, c'est qu'en fait, il est imprévisible. Et on l'a vu, quand il n'est pas là, t'as pas forcément d'occasion.
Mais pour rejoindre Jonathan, Kolo Muani est imprévisible, Dembélé également, un autre registre.
Ouais, bon, après, peut-être que le mettre à droite, ce serait peut-être une solution, mais est-ce que Enrique en a envie? Ça, c'est une autre question.
Est-ce qu'il est trop sévère ou trop dogmatique avec Randal Kolo Muani? C'est-à-dire, c'est pas un joueur qui rentre dans le cadre, on en a vu d'autres, ou Garté par exemple, je ne le fais pas jouer.
Bah après, moi je pensais qu'il allait profiter de la blessure de Ramos pour l'utiliser plus, et malheureusement, même quand Ramos n'est pas là en tant que neuf, Kolo Muani n'a pas sa place dans le jeu, il préfère jouer sans attaquant.
Regardez le temps de jeu, minutes depuis le début de saison, c'est le joueur offensif le moins utilisé depuis le début de saison. Derrière Kanguini, derrière Asensio, derrière Désiré Doué.
Mm-hmm. Moi, ce qui me gêne, c'est que déjà, je viens de tirer sur Luis Enrique, je vais tirer sur Kolo Muani, on est dans un procès là un peu. Je trouve que, encore une fois, et le langage corporel, je trouve que. Il incarne pas, il me donne pas confiance, Kolo Muani, quand je le vois. Moi, quand je suis derrière mon canapé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Et à chaque fois, ça va pas. Donc, c'est ça aussi, c'est que le problème, c'est qu'il ne montre pas des choses nous donnant envie d'en voir plus à un autre poste. Et Luis Enrique ne lui donne pas l'occasion de le mettre à un autre poste et le mettre en valeur. Donc, on est sur une équation insoluble. Mmh. Et c'est un départ pour moi qui est inéluctable.
Alors, le départ, justement, Randal Kolo Muani l'a évoqué et l'a plutôt réfuté. C'était hier chez nos confrères de Téléfoot. On va regarder la déclaration. Je n'ai jamais pensé à un départ. Si tu lâches, c'est fini, tu coules. Et c'est à moi de travailler pour que le coach me fasse confiance. On y croit ou c'est une déclaration d'intention?
Non, moi j'y crois parce qu'en fait il a un gros mental, il est force d'abnégation et en gros pour lui partir au bout d'un an et demi du Paris Saint-Germain ça sera un échec. Peut-être attendre encore 6 mois et peut-être à l'été 2025 s'il n'y a pas une amélioration de son temps de jeu qu'il parte, parce qu'en soi ça reste un joueur plutôt polyvalent et j'ose espérer qu'il rende des services au club.
Béric?
Il est encore jeune, lâcher l'affaire tout de suite après une saison et demie au Paris Saint-Germain ce serait totalement un échec pour Randal. On sait, on l'a vu en Bundesliga, il lui a fallu un peu de temps aussi pour s'adapter, il a été bon. Donc lâcher tout de suite, non, c'est pas du tout ce qu'on lui conseille de faire.
Le résultat du sondage, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Kolo Muani avait encore un avenir au PSG. Résultat et sanctions assez nettes, puisque c'est un grand nom, pour quasiment 70% des votants. Le PSG n'est pas fermé quand même à vendre Randal Kolo Muani. Si une offre intéressante se profile, ça pourrait être un prêt avec option d'achat. Le marché anglais est relativement intéressé. Si départ il y a, ça pourrait pousser le Paris Saint-Germain à recruter. Il n'y a pas de déclaration là-dessus officielle d'intention. Plusieurs noms qui circulent à poste et à profil pas forcément identiques. Je vous en soumets 2-3. Gyökeres, on ne parle que de lui. Ryan Cherki ou encore Christopher Nkunku. Est-ce qu'il y en a un qui retient plus votre attention?
C'est compliqué parce que chacun a ses défauts et ses qualités. Le grand avantage de Nkunku, c'est qu'il connaît la maison et que c'est un joueur polyvalent, un joueur d'équipe, un joueur que je trouve très technique et qui pourrait bien rentrer dans le profil de Luis Enrique. Gyökeres, j'ai peur que ça soit difficilement compatible. Ouais. Et Cherki, c'est irrégulier, c'est un joueur qui est encore trop quand ça va, ça va, quand ça va pas, ça va pas. La facilité de dire Nkunku pour moi.
Je rejoins juste Jonathan. Nkunku, après, il faut se dire que physiquement, c'est un peu compliqué. Il reste sur fragile deux saisons un peu où il a eu des soucis.
Donc, ça vous gêne pas de faire revenir un joueur
Après, l'option, je me dirais peut-être faire un prêt avec option d'achat pour voir si les 6 prochains mois, s'il signe, ça se passe bien. Donc Nkunku, après Gyökeres, moi je pense que ça freinerait la progression de Ramos. Parce que
le retour.
Deux profils atypiques. Et Cherki, est-ce qu'il réussira avec la pression du Paris Saint-Germain? Zati, de quoi
Cherki, je pense. Mais Nkunku, il a une revanche à prendre avec le Paris Saint-Germain. Ça s'est plutôt mal fini. On avait beaucoup d'espoir en ce joueur. Il est parti exploser en Bundesliga, il est parti à Chelsea ensuite, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il a vraiment une revanche à prendre avec la Ligue 1 et le voir au PSG, de nouveau, ça me ferait plaisir à moi, personnellement.
Bon, on suivra ça dans les semaines à venir, on a encore un petit peu de temps avant le mercato hivernal, il y aura un retour et ça sera peut-être lui, la recrue. Gonçalo Ramos, Cécile Messi, c'était le portugais, ça plairait pas à Luis Enrique qu'on dise ça. Quoi qu'il en soit, il pourrait revenir très rapidement, et ça c'est presque une info, parce que on pensait que le retour serait un petit peu plus long. On parle du match face à Toulouse vendredi, ce sera peut-être un petit peu court. Qu'est-ce que peut ou qu'est-ce que doit changer le retour de Gonçalo Ramos?
Tout. Il doit créer ce liant devant qui manque au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et justement, Gonzalo Ramos va un petit peu déterminer le mercato hivernal pour le recrutement. Si c'est fantastique, on recrutera une doublure. Si c'est catastrophique, on recrutera un joueur, un numéro 1 bis. Moi, j'espère que Ramos va retrouver très vite sa place parce que je suis persuadé que c'est le joueur qu'il faut à ce poste-là dans le jeu de Luis Enrique.
Franck ?
Oui, d'accord avec Jonathan. Et en plus, il faut se dire que là, depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain joue sans attaquant et lui c'est un bon attaquant, il flaire bien le but, donc j'ose espérer que il revienne très très bien.
Juste un petit bémol, on se souvient quand même que l'année dernière c'était pas le joueur en qui Luis Enrique avait le plus confiance, Gonzalo Ramos. C'est la solution, Gonzalo Ramos?
Bah, on manque cruellement de finition devant et il y avait
un garçon à 44 buts aussi l'an dernier.
Oui, c'est vrai. C'est difficile de trouver sa place.
Excuse-moi, c'est un joueur qui joue dans les petits espaces. Il convient parfaitement au profil Luis Enrique. Pour moi, il convient beaucoup plus qu'un Gyökeres, par exemple. Ouais. Et il me semble qu'il y avait des bruits comme quoi Luis Enrique n'était pas trop chaud pour l'attaquant du Sporting, pour Gyökeres. Alors que pour moi, Ramos, il n'y a pas de débat. Il peut jouer dans les petits espaces, il joue en remise. Il a le jeu parfait pour Luis Enrique, et donc il faut qu'il s'entête comme il s'entête avec beaucoup de choses.
Il a tout dit, c'est ce que j'allais dire.
Excuse-moi, je vais lâcher pour ta première.
Non, mais Ramos a été c'est un bon finisseur, il l'a prouvé plusieurs fois, un profil un peu à la Cavani, ça me rappelle un peu Cavani au Paris Saint-Germain. Donc oui, je pense qu'on manque cruellement de finition et c'est l'homme qui peut débloquer le compteur but du PSG cette saison.
On va voir ça dans les semaines, mais même peut-être les jours à venir. Avec Gonzalo Ramos, retour imminent peut-être contre Toulouse. Petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour évoquer une question assez brûlante. La politique a-t-elle sa place au stade ? A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes trois chroniqueurs du soir, Béric, Pierre-Louis, Jonathan Ferdinand et Franck Dossous. La trêve, messieurs, qui va nous permettre d'évoquer un sujet extrasportif. Pour une fois, le CUP, le collectif Ultra Paris, dans l'œil du cyclone, c'est notre grand débat du lundi autour des derniers événements qui se sont produits ces dernières semaines. Alors, rarement, voire jamais, je crois qu'on peut le dire, un tifo n'avait autant fait parler. Je parle bien évidemment du tifo Free Palestine déployé par le CUP le soir du match face à l'Atlético, avec ce message en dessous, la guerre en tribune met la paix dans le monde. Votre réaction, messieurs, quand vous avez découvert ce tifo, est-ce qu'il vous a surpris ?
Alors moi déjà, première réaction, j'étais dépité par le match, donc ça m'a pas trop interloqué. Ouais. Et puis après, je trouve qu'un tifo, ça s'analyse avec la bâche en dessous, donc avec la phrase. C'est vrai qu'il peut être maladroit parce qu'il me semble qu'il y a un guerrier avec un kéfier, donc on peut
pas comprendre. Il y a pas mal de représentations qui ont été analysées ou suranalysées.
On peut pas comprendre. Ça peut être difficile à comprendre. Moi, ce qui m'a gêné, c'est surtout la polémique que ça a fait. On a plus fait parler ce tifo que le conflit en fait. Les hommes politiques ils parlent que de ce tifo, mais qu'est-ce que vous faites pour le conflit? Donc moi c'est un tifo qui m'a pas choqué outre mesure parce que ça reste un message politique et le sport est politique et donc voilà.
Et comme l'a dit l'UEFA qui est non injurieux, qui n'assigne pas à la haine de quelque manière que ce soit. En tous les cas c'est comme ça que l'UEFA légitime le fait qu'il n'y a pas de sanction. Franck.
Non, moi surpris, je m'attendais pas à voir ce tifo là. Pour ce match-là, j'aurais peut-être préféré que le club fasse une autre action plus pacifique, peut-être avant le match, pour faire passer leur message. Et comme l'a dit Jonathan, en fait, ça a fait une polémique, parce que tous autour de la table que nous sommes, on est tous sportifs, on aurait plus préféré que ça parle du match que de ce tifo. Mais bon, après, on est tous conscients que voilà, c'est un conflit problématique, on a tous nos avis dessus, mais j'aurais aimé potentiellement que le CUP fasse une autre action
pour ce type de match. On va élargir un petit peu, est-ce que la politique a sa place dans le stade, dans les tribunes ?
Compliqué. Quand on voit que la corbeille du Parc des Princes est souvent remplie de ministres.
Donc, non, mais le foot est. Oui, en fait, ça. La question est dans la réponse. Le foot est éminemment politique. Ouais,
forcément. Mais après, quand ça se passe dans les tribunes, je suis pour que les supporters puissent s'exprimer aussi. Tout le monde a une tribune. Les supporters ne l'ont pas forcément. Donc, quand on a un événement aussi important au Parc des Princes, c'est aussi pour les supporters l'occasion d'exprimer quelque chose derrière. Là, c'est un message de paix, en l'occurrence, donc ça a sa place.
Énormément de réactions, vous le disiez, notamment politiques. On va voir celle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui estime que Stifo n'a pas sa place au stade, que la politique ne doit pas abîmer le sport. On vient de l'effleurer, cette question-là. On dit souvent que le stade, c'est aussi le reflet de la société, de ses conflits.
C'est le reflet de la société, donc du coup, c'est normal que ce qu'il y a en dehors du stade vienne dans le stade. Et c'est, pour moi, c'est une phrase idiote. Mais c'est à l'image de ce... Après, on n'est pas sur BFM Business ou je sais pas quoi, mais c'est à l'image de ce gouvernement qui veut faire sa communication sur le football. Le nombre de tweets
sur le Paris Saint-Germain, on y reviendra.
Le nombre de tweets qui a été fait par le ministre des Sports qui vient d'arriver sur le Paris Saint-Germain ou sur le foot.
En plus, c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas forcément.
Bien évidemment, la première prise de parole, je crois que c'est sur BFM, la nationale, il énonce des sanctions dans les stades. La moitié existe déjà, ou la moitié sont difficiles à faire appliquer.
Oui, les policiers dans les tribunes.
Il faut quand même déjà travailler ces dossiers avant de se la ramener.
Juste sur la réaction de Paris Saint-Germain, Franck, le PSG se désolidarise de Stifo en expliquant, je cite, qu'il n'en avait pas connaissance et que le parc doit rester un lieu de communion autour du PSG. C'est logique de réagir comme ça pour le PSG.
C'est logique, oui, mais nous qui sommes un peu experts, je pense qu'en fait c'est de la communication, parce que comme dans tout club de Ligue 1 ou Ligue 2, il y a un référent supporter qui doit faire le tampon entre la direction et le CUP, et je pense que Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, ils étaient au courant.
Alors le CUP, justement, je rebondis sur tes propos, qui explique, qui dédouane le Paris Saint-Germain, dont ils n'ont pas eu besoin pour confectionner et déployer le Tifo, Tifo entièrement réalisé dans un gymnase en banlieue. On y croit ? Toi, tu n'y crois pas, tu viens de dire.
C'est de la communication.
Non, moi, c'est de la communication de crise, bien sûr. Ouais. C'est de la communication de crise. Oui. Nous, le Paris Saint-Germain, on se retire de ça. Ouais. Et vous, le CUP, vous expliquez votre démarche. Comme ça, on essaie de, voilà, que les balles se dispersent, mais personne n'est dupe, je pense.
L'UEFA donc, n'a pas sanctionné, estimant qu'il n'y avait pas de caractère injurieux, diffamatoire, incitant à la haine. En revanche, le CUP a été sanctionné par le PSG, qui a été reçu place Beauvau. Il y a eu une réunion pour mieux maîtriser ces tifos-là. Pas de tifos jusqu'à fin 2024, ça a été évoqué. Et surtout, les membres du CUP sont désormais interdits d'accès au Parc des Princes en dehors des jours de match. Qu'est-ce qu'on pense de ces sanctions-là?
C'est très léger. Je suis pas sûr que les sanctions puissent empêcher les supporters du CUP de dormir. Enfin, c'est très léger. Et puis,
oui, parce qu'en plus, ils expliquent qu'eux, ils vont faire leur tifo dans un gymnase en province.
Bah, ça sert à rien. C'est juste histoire de dire on a fait quelque chose, on a fait une action, mais au final, qu'est-ce qui va se passer?
Et pourquoi 2024? Pourquoi pas jusqu'à la fin de la saison?
Oui, c'est complètement
juste 3 semaines. Tu vas arrêter tes banderoles 3 semaines et tu reprendras. Ouais. Ça n'a aucun sens.
On peut pas empêcher des supporters. Alors, il y a peut-être des moyens de réduire, mais de s'exprimer au stade.
Mais je pense que c'est même pas une. Pourquoi leur interdire de faire ça, en fait? Je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça.
Bah, et il me semble que Pierre Barthélémy, qui est l'avocat de l'Association nationale des supporters, il me semble que c'est contre les libertés fondamentales d'interdire comme ça la liberté d'expression dans un stade. Mm-hmm. Donc il me semble que c'est même pas légal en plus, cette mesure.
Autre événement, incident, plutôt qui a eu lieu ces dernières semaines au Parc des Princes, sont les chants homophobes entendus lors de PSG Strasbourg, juste avant le Classico OM-PSG. Le PSG et le CUP ont pour le coup été sanctionnés d'une fermeture partielle de la tribune Auteuil, ça sera vendredi soir face à Toulouse. Je voudrais qu'on écoute Luis Enrique qui va lancer cette thématique de manière assez éclairante.
Que ce soit le club ou d'un point de vue personnel, nous condamnons tout type de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a que des sanctions contre le PSG. La tribune est fermée tous les 4 matins, alors que dans d'autres clubs, on entend tout type de choses et je ne vois pas de sanctions.
Bon, l'idée avant tout, et Luis Enrique le rappelle, c'est de condamner ces chants homophobes, mais il y a un constat que dresse Luis Enrique, c'est que le PSG serait un peu plus sanctionné que les autres clubs.
Bah, c'est vrai, malheureusement. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de politiques qui viennent au Parc des Princes, alors que ça arrive dans tous les stades, les chants homophobes. Malheureusement, c'est un fléau, il faut s'en débarrasser. Mais il n'y a pas un stade de Ligue 1, on a juste à tendre l'oreille quand on regarde les matchs à la télévision, on n'a pas un chant homophobe. Ouais. Et il n'y a que au Paris Saint-Germain qu'on sanctionne, parce que je pense qu'il y a une récupération politique, parce qu'il y a des politiques qui viennent au Parc des Princes, tout simplement.
Franck ?
Oui, je suis d'accord avec Béric. Oui, il y a du monde dans la corbeille, c'est de la récupération politique. Et ce qui me gêne, en gros, la LFP, en fait, ils sanctionnent que le Paris Saint-Germain. Il y a d'autres clubs, on en parlait, à Angers-Saint-Etienne, il peut avoir des chants homophobes, ils ne sont pas sanctionnés.
Juste avant la trêve, match arrêté hein, pour le chant homophobe, pas de sanctions.
Pas de sanctions,
on peut parler aussi du classique.
Du classique, Lyon, donc en gros, je ne sais pas pourquoi les politiques s'acharnent sur le Paris Saint-Germain.
Il y a deux poids, deux mesures, Jonathan, entre les sanctions pour le Paris Saint-Germain et le reste.
Je vais me faire des amis au gouvernement, moi, mais non, c'est de la communication. C'est qu'en fait, ils veulent montrer qu'ils sont là, c'est des nouveaux ministres, ils sont là pour deux ans. C'est un peu plus longtemps, j'espère, pour eux. Ils veulent se faire une carte d'identité politique et donc ils tapent sur le Paris Saint-Germain parce que c'est le fer de lance du football français.
C'est aussi simple que ça. C'est la résonance médiatique également qu'offre le Paris Saint-Germain sur ces matchs ultra minimes.
Mais c'est plus efficace pour un politique de taper sur le PSG que sur Angers. Donc, je vais pas non plus être démagogue et dire que c'est trop facile, mais effectivement, pourquoi on tape plus sur le PSG que sur un autre club? Ça n'a aucun sens. Il faut des mesures pour tout le monde, les mêmes, et la justice pour tous les clubs, quoi. Voilà.
C'est le PSG qui sert d'exemple ou de laboratoire.
Ouais, c'est ça. C'est le PSG qui sert d'exemple comme tout le temps. Et voilà. Mais j'ose espérer que si malheureusement il y a d'autres injures dans les stades, que ça soit pas le Paris Saint-Germain, on sanctionne les autres clubs.
Il y a eu quand même quelques. Alors voilà. on a rappelé Angers-Saint-Étienne, Le Havre-Reims, et puis il y a eu le classique. La commission de discipline a statué sur le fait que les champs étaient trop diffus, qu'on n'arrivait pas à avoir de localisation bien précise, et il n'y a pas eu de rapport de la part des délégués.
C'est un peu trop facile. La communication encore.
Ça prouve juste qu'on a un problème avec la gestion des supporters. Le délégué fait pas de rapport, donc du coup il y a pas de suite. En fait, je pense que le cadre juridique est trop faible aussi, ou mal pensé, ou trop arriéré pour que ces problèmes-là soient bien gérés aussi, que ce soit pour les déplacements de supporters, pour les banderoles, pour les chants homophobes. Il faut repenser tout ça, mais pour ça il faut aussi prendre en considération les demandes des supporters, notamment de l'ANS, qui demandent aussi à discuter, à travailler avec les autorités françaises.
Alors, quelle serait la bonne solution si l'on reste sur ce cas de figure précis, Béric, de chants homophobes, racistes, pour endiguer, enrayer le phénomène ?
Des sanctions individuelles. Je pense qu'il faut, en 2024, on peut localiser maintenant les spectateurs rapidement dans les stades. On peut savoir qui sont les lanceurs de chants, par exemple, et les radiers totalement des stades. C'est une solution qui me semble la plus correcte.
Franck ?
Ouais, peut-être les sanctions individuelles, ça éviterait de généraliser, de sanctionner toute une tribune.
Ouais, parce que là, on a quand même fermeture de tribune partielle. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas si on sait exactement ce que ça veut dire, fermeture de tribune partielle vendredi contre Toulouse. On verra bien, il va y avoir certainement une partie d'Auteuil qui sera ouverte et l'autre non. Il y a aussi la possibilité, l'éventualité du retrait de points, de l'arrêt des matchs. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Interruption des matchs, ça ne fonctionne pas.
Oui, ça fonctionne pas. Après, le retrait de points, je trouve ça encore plus idiot.
Ça n'a jamais vraiment été mis en place, le retrait de points. Le jour où tu fais peser cette menace-là sur les supporters, il y a peut-être une petite partie qui va quand même.
Ou l'arrêt du match. Peut-être l'arrêt du match, parce que tu sanctionnes tout le monde.
Ouais, l'arrêt du match
complet. Hein. L'arbitre ici.
L'arrêt du match me semble plus efficace qu'un retrait de points, honnêtement. Après, on n'a jamais testé, donc voilà, à voir. Mais je trouve ça idiot de ce que le sportif paye pour quelques imbéciles en tribune qui font du coup que par effet de masse, par effet de groupe, eh bien, ça entraîne toute une tribune à chanter un chant qu'on ne devrait plus entendre. C'est regrettable.
Beaucoup de choses à mettre en place. On n'a pas toutes les solutions ici sur le plateau de Cop Paris. Non, juste pour revenir à la question de départ, le PSG, vous m'avez répondu, le PSG et le CUP ont un traitement de défaveur, sont dans une sorte d'œil du cyclone médiatique.
Ah oui. Les
regards sont souvent braqués sur le PSG en France, donc c'est le plus grand club de France, donc forcément, il y a plus de facilité à taper sur ce club. Donc oui, indirectement oui.
Ouais. Bon, on va suivre ça avec attention, toutes les avancées, les ajustements dans ce dossier. Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants. L'instant nostalgie, on va se replonger dans le PSG de Laurent Blanc. À tout de suite. De retour dans Cop Paris, toujours avec mes trois invités du soir. Jonathan Ferdinand, Franck Dossou, Béric Pierre-Louis. On va reparler football là, messieurs, et on va faire un bond de quasiment 10 ans en arrière. C'est l'instant nostalgie Cop Paris pour revenir sur les plus belles heures d'un PSG qui nous a tous marqués, c'est celui de Laurent Blanc. L'effet tout d'abord et le palmarès de Laurent Blanc après 3 saisons au Paris Saint-Germain, c'est 11 titres. 3 titres de champion de France, 3 coupes de la Ligue, 3 trophées des champions, 2 coupes de France. C'est tout simplement et d'assez loin l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. On va faire simple, si je te dis Laurent Blanc, tu penses à quoi ? Laurent Blanc au PSG.
Le record de points, quelle saison ? C'est 2014 peut-être ?
Record 95
de... 95 points, il me semble. Ouais. Donc c'est le record toujours non
de, légal, de la Ligue 1.
Ouais. La Ligue 1.
Franck ?
Les trophées. 11 trophées et... Ouais, 11 trophées. Je retiens beaucoup ça, en fait.
Moi, c'est PSG Chelsea, le 2-2.
Ah,
le 2-2 avec les émotions, les frissons, je m'arrache les genoux en glissant chez moi, alors que c'est du carrelage, non, c'est ça moi.
Il y a un élément quand même qui ressort assez souvent lorsque l'on évoque le PSG de Laurent Blanc, c'est cette notion de jeu, de buts, de beaucoup de buts marqués. Et finalement, de plaisir aussi lorsque l'on regardait ce PSG.
Oui, on prenait beaucoup de plaisir avec notamment une très belle équipe sur le papier, un coach qui prenait ses responsabilités, pas toujours, mais les a quand même prises. Ouais. Oui, on retient surtout Zlatan, pour moi. Ouais. C'était le vrai taulier de cette équipe, le leader sur le terrain et en dehors du terrain. Donc oui, c'était, pour moi, c'était ça.
Laurent Blanc qui a aussi, tu le disais, rempli l'armoire à trophées grâce à une armada. On va revoir le 11 de Laurent Blanc, des joueurs qu'il a le plus utilisé. Sirigu dans les buts, Maxwell, Marquinhos, Thiago Silva, Van der Ville en défense, Thiago Motta, Matuidi, Verratti au milieu et puis devant, Lavezzi, Ibra, Cavani. Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'ère QSI sur le papier ?
Sur le papier, non, je pense pas.
Ah ouais.
Bah non, parce que quand on peut aligner une équipe avec Messi, juste sur le papier. Okay. Mais sportivement, oui, je pense.
La plus équilibrée, peut-être.
La plus équilibrée, en tout cas, ça, c'est sûr.
C'est l'une des meilleures.
Ouais.
L'équipe du PSG de l'RQSI 2015-2017, l'année. Ouais, j'ai bien aimé cette période-là aussi. Ouais.
Quel est le joueur, tu as déjà répondu, Béric, le plus indissociable de l'ère Laurent Blanc, selon toi?
Bah, comme je l'ai dit, Zlatan Ibrahimovic, ouais. C'était le vrai taulier, il faisait peur à tout le monde. Donc quand tu te pointais avec Zlatan sur la feuille de match, tu avais déjà pratiquement un but d'avance, c'est entré dans la tête des adversaires. Donc,
Ouais, Zlatan.
Et il est arrivé, je crois, un an avant lui, il est reparti avec lui également. Ouais. Il y a un secteur de jeu qui revient aussi souvent en tête lorsque l'on évoque PSG de Laurent Blanc. Ah,
c'est les trois du milieu. Le trident du milieu de terrain, Verratti, Matuidi, Motta, ils régulaient le jeu. Les trois, ils étaient complémentaires. Ça a permis d'éclore Blaise Matuidi. Motta, il jouait dans un fauteuil. Il savait réguler les temps forts, les temps faibles. Verratti, on l'a découvert. Il n'était pas blessé énormément à cette époque. Il s'amusait. Mais oui, le milieu terrain de...
Ouais, Motta, c'est le deuxième joueur le plus important de l'ère Laurent Blanc. Ouais. Parce que c'est lui qui permettait de contrôler. Ouais. Et pendant un temps, on disait oui, le PSG de Laurent Blanc joue à la bavale. Mais c'est grâce à Motta qui imprimait vraiment sa marque et le tempo. Ouais. Il était le métronome de cette équipe. Et le deuxième joueur après Ibra qui m'a le plus marqué, c'est Motta, sous Laurent Blanc.
Thiago Motta.
Largement.
Est-ce que vous savez, il n'est pas dans la liste, dans le 11 que je vous ai refait, le joueur le plus utilisé. Quel a été le joueur le plus utilisé par Laurent Blanc?
C'est pas David Luiz?
Non, Lucas, un Brésilien.
Lucas Moura.
Lucas Moura. Ah oui, ouais, Moura. 155 matchs, beaucoup en sortie de banc.
Ouais. Ah, mais lui aussi, il a été utile. C'est très important d'avoir ce type de joueurs qui répondent présents. On les met sur le banc, ils ne vont pas faire des traces. Donc, oui, Lucas Moura, moi, j'en garde un bon souvenir au Paris Saint-Germain.
Et le meilleur buteur, sans grande surprise, Ibrahimovic. Ouais. 121 buts quand même en 134 matchs avec Laurent. C'est n'importe quoi. On a évoqué les bons souvenirs. Il y en a des moins bons, notamment, surtout en Ligue des Champions. Oui, il y a eu le Chelsea Paris Saint-Germain. Mais c'était en huitième de finale.
C'est ça.
Si je dis pas de bêtises, le PSG à cette époque-là, plafond de verre, les quarts de finale, à chaque fois, avec Laurent Blanc, Chelsea en 2014, alors là c'est le Chelsea avec le but de Dembaba, Barça 2015 et Manchester City. C'est une vraie déception ce bilan parce que le PSG aurait pu ou aurait dû faire mieux.
Moi, je pense que le PSG aurait dû faire mieux. Ils avaient l'équipe sur le papier, sur le terrain, pour faire nettement mieux et essayer d'atteindre les demi-finales. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, comme tu l'as dit, il y a le souci qu'il y a eu à City avec son 3-5-2. Ouais. Mais bon, voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage pour Laurent Blanc.
Pour moi, il y a deux années où il peut faire mieux. Le match Chelsea 14-15 et 13-14 et City bien évidemment.
Oui, parce que le Barça entre deux, il n'y a pas match.
Même au retour, je pense qu'il y a 3-1, il n'y a même pas de débat. Ouais. En revanche, c'est vrai quand tu vois le match aller de Chelsea l'année d'avant avec Pastore qui met ce but et cette intensité dès le début, il avait dit qu'il marque dès le début du match. Non, pour moi, on était au-dessus.
Moi, j'ai un souvenir et un grand regret sur ce match-là lié à Laurent Blanc, c'est sur l'entre-deux matchs, la communication de José Mourinho, qu'on avait fait Dayton, on va remonter, et qui là-dessus avait, je pense, gagné le match ou la double confrontation.
Mais c'est pas le style Laurent Blanc, c'est pas son style, bien évidemment. Trop lisse, mais ça convenait aussi au Paris Saint-Germain, version Qatar, ça convient, c'est-à-dire pas trop de vagues, on fait notre jeu, on joue bien au football, et on va passer par le jeu. Mais c'est vrai que, et puis après 2016, bien évidemment, City.
Alors on y vient, c'est ce qui reste en tête sur le bilan Ligue 3-5-2. Des Champions, le 3-5-2 de Laurent
avec Serge Aurier qui l'insulte sur Periscope, un réseau qui a disparu depuis deux mois
c'est
avant.
C'est le réseau de Serge Aurier, on n'a jamais refait.
Bien sûr, mais c'est lui qui a
il avait les parts
dedans. Mais oui, c'est ce choix du 3-5-2 alors que c'est 4-3-3, toujours Laurent Blanc depuis 3 ans, et puis mettre Serge Aurier axial droit, il s'est tiré une balle dans le pied.
Mais à droite, Van der Ville, non, je sais pas, Mickey à droite.
Non, je crois que c'est...
J'ai un doute, mais je crois que
Marquinhos... c'est pas Marquinhos, c'est le
en tous les cas, Aurier revient effectivement dans des conditions ubuesques, et puis il y a ce coup tactique, on a l'impression qu'il a un petit peu scellé son avenir.
Bah, il le porte encore aujourd'hui comme un fardeau, ce 3-5-2 Laurent Blanc.
Souviens,
bah, oui, c'est terrible, il a tué le club ce soir-là. Enfin, c'était que le match aller, mais quand même...
C'était le match retour, match aller de partout au Parc des Princes, compliqué déjà le match aller, puis 1-0, t'es qui pas vraiment là-bas, avec un plan de jeu qui avait un petit peu déstabilisé l'équipe. Malgré cette élimination, on pensait que Laurent Blanc allait continuer avec le PSG, ne serait-ce que parce qu'il venait de prolonger. On va parler du divorce jusqu'en 2018. Écoutez sa dernière, c'est la toute dernière prise de parole de Laurent Blanc. Il vient de gagner la Coupe de France face à l'OM et de réaliser le quadruplé avec le PSG.
Au Paris Saint-Germain, ça ne suffit pas. Je pense que la communication a été très claire dès le départ. Ils veulent gagner la Champions League. Voilà, il faudra un petit peu se reposer, bien débrancher un petit peu la prise et puis se remettre au travail en essayant de faire un groupe, une équipe encore plus forte. Peut-être pas individuellement, mais collectivement.
Bon, la première chose, c'est qu'il n'avait pas vu venir et personne n'avait vu venir ce divorce quand on prolonge un entraîneur en février.
Ben non, ça, lui-même, il a été étonné. Il espérait s'installer dans le projet, mais en fait, QSI, les Qataris, ils en ont décidé autrement parce que eux s'attendaient potentiellement à atteindre le dernier carré. Et voilà, ça a été.
Ils s'en est remis vite, il a pris un gros chèque derrière.
Voilà, ils s'en est
remis. Ah oui, c'est un divorce qui coûte très, très cher.
Ah ouais, c'est,
22 millions d'euros. Hein,
bah c'était colossal. Ça. C'était même aujourd'hui, je pense qu'on tombe encore un peu des nues.
C'est énorme.
Drôle de divorce. On a l'impression qu'on a du mal à couper les ponts au Paris.
Bah, il a fait les frais d'une grande révolution. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, la stat qui tourne, c'est que Laurent Blanc, c'est 4 échecs en quart de finale de Ligue des Champions. Donc 3 avec le Paris Saint-Germain et un autre avec Bordeaux. Ouais. Donc en fait, il y a cette idée de. En fait, c'est un entraîneur qui est bon sur la scène nationale et pas plus. Mmh. Et ça, je pense qu'à l'époque, à Doha, ça n'a pas plu du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont dit on fait un grand ménage et on part avec.
Oui, puis il y avait le départ d'Ibra, donc il fallait reconstruire.
Une saison de transition avant l'arrivée des superstars. Et...
Il a évoqué, c'est ça qui m'intéresse aussi, en fin de réponse, dans le petit bout qu'on a entendu, la nécessité de créer une équipe encore plus forte collectivement. C'est un peu le projet actuel, ça, celui de Luis Enrique. Même si ce n'est pas du tout ce qui a été mis en place derrière.
Bien sûr. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus au final? Parce que moi je trouve que ce 3-5-2, on en parle comme il se tire une balle dans le pied. Mmh. Mais si on reprend ce match, j'invite tout le monde à le re-regarder.
Non.
Oh. Je suis pas sûr.
Non, mais juste avec le à froid.
Ouais.
Et on n'est pas si horrible que ça pendant une bonne partie du match.
Hein.
Oui, mais on fait jeu égal avec City.
Ouais.
Et franchement, ça joue pas à grand-chose. Et donc au final,
mais sa tactique au départ, désolé du terme, mais il se foire. Tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi il passe d'un 3-5-2 à un 4-3-3. La base, c'est son 4-3-3.
C'est désastreux. C'est désastreux quand ça marche pas, mais c'est du génie quand ça marche.
Voilà, regarde. Il joue à 3-3.
Bien sûr, parce que ça fait 3 ans qu'il joue en 4-3-3, bien évidemment, mais il veut tenter un truc. Aujourd'hui, Luis Enrique tente un truc et on se dit, oh, c'est un génie tactique.
Oui, mais.
Pourquoi d'un coup, la lecture de l'histoire nous fait que. Bien évidemment, il n'aurait pas dû faire ce 3-5-2, mais. Je pense que Laurent Blanc, cette époque-là, il avait le droit peut-être à encore une année supplémentaire, puisque franchement, je trouve que ce match-là, il se joue à des détails. Vraiment, le match aller, Ibra loupe un penalty. City n'est pas sensationnel. Après, il y a Joar qui fait une cagade au match aller. Donc en fait, tu te dis que ce Paris Saint-Germain-là, quand même, il progresse, même si ça ne se voit pas dans les tours qui sont passés. Donc c'est dommage que ce divorce avec Laurent Blanc, ça soit mal passé.
Est-ce qu'il y a des similitudes, quand même, selon vous, je reviens sur le PSG Luis Enrique, entre le PSG Laurent Blanc et Luis Enrique, sur le projet de jeu, la manière dont évolue l'équipe?
Non, je trouve pas tant que ça. Non, après, sur les deux coachs, oui, il y a une similitude. Ils sont tous les deux un peu. Ils peuvent te sortir un coup de leur chapeau comme ça, sans l'expliquer derrière. Mais après, non, dans le jeu, je trouve pas qu'il y a beaucoup de similitudes.
Peut-être le jeu de possession, non ?
C'est le coach qui a eu le plus de possession par Paris Saint-Germain.
Peut-être
il se rapproche à Luis Enrique.
Ouais, peut-être le jeu de possession parce qu'en fait Laurent Blanc il aimait bien le jeu du Barça. Donc en gros, ouais, peut-être la similitude, ce serait peut-être le jeu de possession. Je vois que ça.
Est-ce qu'il y a des joueurs, je repose la question différemment, dans l'équipe de Laurent Blanc que vous aimeriez voir aujourd'hui dans l'équipe de Luis Enrique pour faire passer un cap?
Jonathan l'a dit, Thiago Motta. On en parle.
On la mesure, je crois. On ne voit toujours pas.
Voilà.
Le deuxième, c'est Zlatan quand même.
Oui, Zlatan.
Parce que franchement, c'est un numéro 9, mais capable d'être numéro 10. Donc à le voir dans le système Luis Enrique, même si je pense qu'il aurait détesté avoir Zlatan, comme Guardiola a détesté avoir Zlatan. Ouais. Mais quand même, juste pour la beauté du football et juste pour voir ce que ça aurait donné, Zlatan sous Luis Enrique, dans ce PSG-là.
PSG manque un peu de taulier. L'équipe de Laurent Blanc avait un taulier par ligne. Aujourd'hui, ça manque de taulier à toutes les lignes. Ah, donc voilà.
Ouais. On va revenir, messieurs, à l'actu du Paris Saint-Germain. On sort de cette petite bulle en évoquant le calendrier qui attend les Parisiens avant la trêve. PSG Toulouse, vendredi au Parc des Princes, avant un déplacement brûlant, un petit peu inquiétant, mardi prochain, au Bayern Munich, en Ligue des Champions PSG Nantes, le 30 novembre. On passe tout de suite à l'Omnisport, les résultats du week-end de vos clubs franciliens. C'est avec Maxime Montiou.
Un Paris Basket irrésistible sur ce mois de novembre. Moins de 48 heures après l'exploit à Barcelone en Euroleague, les Parisiens ont enchaîné un troisième succès d'affilée en Betclic Elite contre Strasbourg. Devant plus de 5200 spectateurs à l'Adidas Arena, Nadir Ifi a brillé avec 29 points au total. Score final 106 à 74 pour les hommes de Thiago Splitter, deuxième du classement derrière Cholet. La dixième victoire en 10 journées a mis du temps à se dessiner, mais elle a fini par arriver pour le PSG Handball. Sans Elohim Prandi et Luc Steins blessés, les Parisiens ont peiné pour s'imposer 28-26 sur le terrain d'Aix-en-Provence dimanche soir. Porté par un Andreas Palika brillant dans les buts, le PSG s'en est sorti au forceps. Premier avec 2 points d'avance sur Nantes, les décuples champions en titre se déplaceront dimanche prochain à Chambéry. Laborieuse mais victorieuse, les joueuses du PSG ont eu toutes les peines du monde à dominer Reims, pourtant relégable au classement. Menées après une erreur d'Eva Gaetino, les Parisiennes comptent heureusement dans leur rang Marie-Antoinette Katoto. Après un triplé lors du match précédent contre Strasbourg, l'attaquante a cette fois marqué 2 fois. Succès 2-1 des joueuses de Fabrice Abriel, toujours 2e du classement, 1 point derrière l'Olympique Lyonnais.
Comme Paris, c'est déjà fini, un immense merci à vous trois, messieurs. Béric Saint-Louis, très belle première. Jonathan et Franck, toujours aussi brillant.
Merci.
Merci également à Jordan Le Sueur à l'édition. On se retrouve lundi prochain. Vous n'oubliez pas que Cop Paris est disponible en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play, sur le site web BFM Paris et le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous. On se retrouve lundi prochain, veille de Bayern PSG. Ciao, ciao.